Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast BD bimensuel du Soleil Levant.
Hello.
Bonjour à tous. Après ce petit repos, ça fait bizarre d'avoir une semaine où il se passe rien, tu vois. Avec les invités, tout ça, ça commence à être super pesant. Enfin, surtout pour moi, parce qu'il me semble que l'un d'entre nous est assez peu présent.
Oui, mais en fait, j'ai pas été crédité, c'est tout.
Ouais, c'est ça. Oui, non, il était aux manettes, il touchait au bouton derrière.
Hein, ouais, je touchais tes boutons, c'est ça.
Oui. Pourquoi du soleil devant? Parce que, miracle, on va parler de deux mangas dans cette émission, ce qui est une chose assez rare, car... on n'a rien contre les mangas, mais comme on n'en lit pas beaucoup, bah, en général, on n'en parle pas.
C'est unique même.
Ouais. C'est peut-être déjà arrivé, par un grand coup de hasard, un grand coup de bol.
Ah si, du style, ouais, peut-être on aurait pu avoir un Pluto et une intégrale du style 20th Century Boys ou Monster.
Ouais, c'est possible. Enfin bon, quoi qu'il en soit, une émission encore assez chargée, parce qu'on a pas mal de choses. Et puis, bah, on va commencer de suite, hein. Je pense qu'on a fait... une intro qui est plutôt correcte, ça va, c'est raisonnable. Hein,
je sais pas, tu voulais pas parler d'un truc précis, le temps qu'il fait, la chaleur.
Bah disons que le temps qui va passer entre le moment d'enregistre et le moment où on publie, ça peut encore beaucoup changer, tu comprends. Donc d'un point de vue météo, on va pas être très fiable, très crédible. On pourrait dire il fait beau dans le sud de la France et mauvais dans le nord.
Ouais, tu pourrais aussi faire les actus avec des SK, New York.
Oula, c'était il y a longtemps déjà.
C'est longtemps déjà, c'est vrai qu'on en parlera plus d'ici là.
Voilà, c'est les concombres maintenant.
Le concombre de DSK.
Ben oui. On attaque avec notre presque neuf.
Et directement, donc, Une vie dans les marges.
Un putain de pavé dans la collection Pierre, et je pense que c'est parce que c'est un pavé. C'est peut-être voulu, tu vois. Chez Cornelius. Ça y est, je viens de tuer. J'ai fait une blague qui va tuer Mathieu. C'est un miracle. Chez Cornelius, donc une très très belle édition. Alors, Une vie dans les marges, nous avons choisi nos deux mots, c'est un documentaire intimiste. Pourquoi? Parce qu'Une vie dans les marges va nous raconter, il y a un côté autobiographique, c'est-à-dire que l'auteur, Yoshihiro Tatsumi, alors je suis obligé de regarder à chaque fois qu'il y a un nom japonais, parce que je suis très nul en nom japonais, va nous raconter son histoire, même si le personnage... Hiroshi, donc un nom différent. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il utilise un pseudonyme ou pas en tant qu'auteur, mais bon, on va suivre la vie de Hiroshi dans sa jeunesse, dans la fin des années 40 et le début des années 50 au Japon, et sa volonté de devenir mangaka avec son frère qui a une mononucléose. Et la mononucléose, c'est ça, c'est... Non, c'est quoi qu'il a comme maladie?
Non, c'est un truc plus... Enfin, c'est un truc grave, mais moins grave que la mononucléose.
Enfin, un truc grave à l'époque, et maintenant, ça nous ferait rire, quoi.
Presque.
Oui. Enfin bon, son frère qui est malade, c'est j'oubliais la maladie, mais bon... Et tous les deux veulent devenir mangaka, et d'ailleurs, ils vouent un culte à un petit jeune... qui a démarré il y a quelques années, enfin petit jeune, parce qu'eux ils ont quel âge? Ils ont 14-16 ans, 14 ans, un truc comme ça, ils sont vraiment tout mômes, quoi. Ouais, et ils sont fans de Osamu Tezuka.
Qui lui est un jeune étudiant en médecine.
Voilà, qui a une vingtaine d'années, un truc comme ça.
Et là on se dit waouh.
Waouh, ça nous remonte à loin. Et donc on a là à faire, on va déjà suivre en parallèle l'histoire de ces jeunes qui veulent devenir mangaka, comment est-ce qu'ils arrivent, qu'est-ce qu'ils vont faire, et on a tout en parallèle le portrait du Japon de cette époque-là. Et on se doute, vis-à-vis des événements qui leur sont arrivés, ça s'appelle une branroute, il y a quelques temps auparavant, que la vie japonaise ne devait pas être très joyeuse au début des années 50, et elle ne l'est pas. Et on a donc à la fois ce côté intimiste, on a vraiment ce côté biographique, même s'il est raconté à la troisième personne, et ce côté historique, parce qu'ils nous disent bah, à telle époque, il y a tel film qui est sorti. Qu'est-ce qu'il y a? Deux. Ouais, tu me montres un deux, oui.
Bah, depuis tout à l'heure, ça va te faire le speech. Tu vas m'attendre pour que je fasse les deux mots, mais...
Ouais, mais on va y
si
aller.
On les place à la fin du truc, ça va être mon intérêt. La, quand la, même.
D'abord, on dit le genre, puis on fait le résumé, et ensuite, on donne notre appréciation. Tu vois, attends,
j'ai un planning.
Non, ça a toujours été comme ça.
C'est toujours été ça, c'est ça.
Partons de l'objet, quand même, avant d'attaquer notre appréciation scénaristique. On va parler de l'objet. C'est un pavé. Putain de bel objet. Bon, c'est un pavé.
C'est beau, mais c'est gros. Hein.
Ouais, avec une, bah, c'est cher aussi, hein, derrière. Hein. Il est à... je ne sais plus, mais il était cher. C'est plus de 30 euros. Ouais. Je crois qu'il a 39, un truc comme ça. C'est à vérifier. Mais bon, c'est un super bel objet, sous jaquette. Et puis une jaquette, on pourrait presque en faire un écran de jeu de rôle. tellement on peut la déplier qu'elle est énorme et
ouais.
Qui est superbe. Dessous, tu as un super bouquin toilé, magnifique. Deux marque-pages dedans, parce qu'il y a un lexique à la fin pour nous parler des personnages, ce qui permet de marquer la page où on en est dans la lecture et de marquer la page du marque-page. Un choix assez surprenant et original de traduire les onomatopées sous la case. J'avais jamais vu ça dans le manga, mais on s'y fait en fait.
Bah, c'est comme quand tu lis un bouquin que t'as les.
Quand tu lis un bouquin que t'as les sous-titres, un film. Quand tu vois un film.
Non, les numéros. Les numéros, ouais. Les numéros de bas de page.
Ça fait juste bizarre. On s'y habitue quand même et on va pouvoir s'attaquer au scénario. Non, on va passer du dessin d'abord, peut-être. Allez, le dessin, parce que le dessin, le scénario. Je pense qu'on aura plus de choses à dire que sur le dessin.
Je pense aussi. Le mot du dessin, c'est le trait.
Clair. Donc, on est dans un dessin...
J'aurais dû dire ligne comme ça.
Ouais,
fait...
oh.
Là, on aurait été bon.
Voilà. Mais... Donc, il y a un trait assez clair. On est dans du manga assez classique. Au niveau du dessin, il n'y a pas de tramage du tout.
Non.
Des tramages au trait, je vais dire classiques, mais assez rares, qui sont là pour les décors. pour les portraits réalistes et les reproductions, parce que de temps en temps il y a des reproductions d'images de films, d'acteurs, etc., où là il utilise un style plus réaliste. Donc c'est un dessin qui est surtout efficace, qui va droit au but. Et...
Il prend pas trop de temps dessus, parce que je pense que l'intérêt. Enfin, je pense dans tous les cas. Je repense encore, putain, quatre fois dans la même phrase.
Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui ?
Qu'est-ce que je pense aujourd'hui ? C'est que l'intérêt est vraiment dans l'histoire et pas dans le dessin. Là.
Et donc, le scénario. Je viens de faire une peur bleue, Mathieu. Je viens de regarder l'enregistreur, l'air inquiet. Non, on enregistre bien depuis tout à l'heure. Le scénario.
Moi, j'ai mis historique.
Intimidant.
Intimidant ?
Ouais.
Why ?
Intimidant. Quand tu arrives face à ce pavé, que tu commences à savoir de quoi ça va parler, que tu commences à lire, tu te dis, oh, mais qu'est-ce qu'il va nous raconter, ce mec ? Mais il nous raconte un moment d'histoire, mais c'est énorme ce qu'il te raconte en fin de compte. C'est un point de vue que je n'avais jamais lu nulle part.
Oui, parce qu'en fait, c'est une histoire qu'on n'a jamais lue, l'histoire du manga en elle-même.
Oui, mais puis même, l'histoire du Japon à l'époque. J'avais vu un film qui racontait un truc qui se passait un petit peu avant, qui était super joyeux. Tu te souviens, Le Troupeau des Lucioles.
Ça se passe un peu avant. Avant pendant, quoi.
Non, c'est avant. C'est les années 40, Le Troupeau des Lucioles.
Ouf.
Là, on est dans les années 50. C'est après Le Tombeau des Lucioles et qu'il se fait exploser la tête par les Américains.
Mais Le Tombeau des Lucioles, c'est juste après Hiroshima.
Oui, mais c'est pendant qu'il se continue à se faire taper la tête par les Américains.
Ouais, ça pas duré.
Là, c'est fini. Là, ils sont. C'est la paix.
Ça n'a pas duré très longtemps, quand même, après Hiroshima.
Oui, bon. D'un autre côté, je pense qu'on ne va pas trop s'engager sur l'histoire du Japon dans les années 40 parce qu'on va pouvoir nous reprendre très facilement, je crois. Non ? Non, pas toi. Toi, t'es un spécialiste.
Non, je ne suis pas un spécialiste,
oui,
mais
bon. Bref, moi j'ai été intimidé par cette histoire et en fin de compte intimidé par la façon dont ça avance, quoi, parce que le temps avance assez lentement en fin de compte. Je sais même pas jusqu'où il va aller, parce qu'il y a deux tomes de prévu. Je sais pas jusqu'où il va aller historiquement, quand est-ce qu'il va s'arrêter. Ça nous raconte quand même l'histoire. Cet auteur-là a inventé un genre dans le manga. Il a inventé un genre qui était le genre tout public. Quelque part. C'est le gars qui a fait que le manga à l'heure actuelle ne soit pas que pour les enfants. C'est l'impression que ça me donne.
Oui, moi, la chose qui me fascine, c'est que c'est le gars qui a visiblement créé le truc, mais moi, j'avais jamais entendu son nom. Alors, c'est vrai que je suis pas fan de manga, mais le nom est totalement inconnu pour moi.
Bah, disons que tel qu'il est décrit, c'est le Will Eisner du Japon, quoi.
Oui, mais sauf que Will Eisner, on le connaît.
Oui, Will Eisner, on le connaît. C'est-à-dire, c'est le gars qui a inventé le roman graphique à la japonaise. C'est pas rien, c'est le gars qui fait qu'on a pu lire quelques chefs-d'œuvre derrière, genre du Nausicaa, du...
Et, ouais.
Et donc oui, il y a un côté intimidant dans tout ça.
Moi, je serais pas allé jusque-là quand même.
Ouais.
Alors c'est quoi, du coup, tu te dis quand tu vas commencer le bouquin que tu lis.
Aïe, vas-y, porte-le.
C'est lourd. Non, c'est le début en fait, moi qui m'a. Voilà, l'introduction de d'Azakawa, qui est donc visiblement un éditeur au Japon. Et voilà, comment est-ce qu'il a contacté Tatsumi pour justement qu'il fasse cette histoire. C'est vrai que voilà, tu lis toute l'histoire, tu te dis, mais waouh, le mec il est âgé de 75 ans, quoi, il continue toujours à dessiner.
Oui.
Il va toujours de festival en festival, tu te dis, mais c'est un monument, quoi, c'est une légende.
Vivante.
Voilà, mais que tu ne connais pas.
Oui, c'est ça qui est énervant. Et ça me déçoit encore plus de ma. Par ma culture du manga me déçoit encore plus quand je lis ce genre de choses.
Bah surtout quand tu te dis que voilà, le Azakawa est un historien du Gekiga.
Gekiga.
Dessin dramatique, voilà. C'est-à-dire qu'ils sont même. Enfin...
Oui. Il y a toute une théorie autour, quelque chose, alors que en France, bah en fait, je pense que le problème qu'il y a, c'est qu'on a arrêté de lire du manga juste avant que le Gekiga arrive vraiment en France, qu'on puisse avoir ce genre de titre-là, et que
en fait, on s'est arrêté, raté
tout un genre. Quoi.
On s'est arrêté au mauvais moment.
Ouais, on s'est arrêté.
Bah, juste quand ça devenait bon, en fait.
Ouais, peut-être, c'est ça. Et ben, bah, on essaie de s'y remettre et c'est pas gagné. Bref, Une vie dans les marges. Édition Cornelius, Yoshihiro Tatsumi, un gros pavé assez cher, mais vraiment un très très beau bouquin qu'il faut avoir, je pense, dans une bibliothèque si on s'intéresse un tant soit peu à l'histoire de la bande dessinée en général, et en particulier de la bande dessinée japonaise, pour le coup.
Ouais, c'est vraiment intéressant parce que ça touche autant la BD que la vie quotidienne japonaise.
Et puis on voit aussi les influences, les influences extérieures au Japon qu'il y a pu avoir sur le manga, ce qui est pas mal intéressant. Bah, cinéma français.
Ouais, beaucoup américain aussi.
Oui, aussi beaucoup américain.
Du fait de l'occupation, quoi. Ça...
Quand il t'explique que c'est à telle date seulement que McAllister s'est cassé du Japon, tu fais ah ouais, quand même.
Ça n'a pas été tout rose quand même.
Ouais, après guerre pour eux. On continue sur les traumatismes d'après-guerre.
Ouais, mais pour une autre guerre ce coup-ci.
Voilà, et on va parler de...
Plutôt. Le tome 7.
Voilà, de Naoki Urasawa, d'après Osamu Tezuka, dont on parlait dans Une vie dans les marges. Et que dans Une vie dans les marges, d'ailleurs, on le voit jeune, Tezuka, ça fait très drôle, parce qu'on a toujours l'habitude de le voir dessiner vieux.
Ben en fait, oui, on l'a toujours vu comme ça. Hein.
Oui, mais c'est parce que je le vois dessiner en Blackjack, et que Blackjack, c'est une de ses dernières œuvres, donc... Bon.
Voilà. Donc plutôt Fauve d'Angoulême aussi, un prix Intergénération.
Oui, qui mérite bien, parce que le prix Intergénération, du fait qu'il y ait ces deux auteurs... Nouvelle et ancienne génération.
Donc on est donc toujours dans notre histoire de robots, hein, les 7 robots les plus forts du monde. 6 sont déjà passés à la trappe, tués par donc Pluto. Il ne reste plus que Epsilon. Epsilon donc, qui était le seul robot à ne pas avoir fait la guerre, parce que c'est un pacifiste, et qui a préféré en fait, s'occuper de tous les orphelins de la guerre. Mais maintenant, bah, c'est le dernier sur la liste. Quoi. Donc...
plutôt essayer de le retrouver.
Ouais.
On est dans la science-fiction intimiste, c'était nos deux mots. Humaniste, pardon. La science-fiction humaniste, c'était nos deux mots. Que dire ? On est toujours dans le même ton, dans la même tonalité. On pourrait vous renvoyer sur les 6 précédentes émissions, on a parlé de plus tôt, sans rajouter grand-chose de neuf. On est quand même sur l'avant-dernier tome. On voit que l'intrigue avance beaucoup. On apprend beaucoup, beaucoup de choses. On comprend quel était le complot du passé qui a fait que... En fait, comprendre d'où vient plutôt qui il est et pourquoi il fait ça. Là, ça y est.
On sait.
On sait. C'est à peu près clair. Bon, ce qui est terrible, c'est de se rendre compte qu'on n'arrête pas de faire référence à des personnages qui ont disparu et auxquels on s'est attaché au tome précédent. C'est déprimant. Ça reste quand même très humain avec toute cette histoire autour de l'orphelinat. Parce que c'est vrai qu'Epsilon, on le connaissait, mais il s'était peu attaché à son histoire jusqu'ici. Et il a une très jolie histoire aussi, donc il y a un petit côté indépendant là-dedans, parce que c'est vrai que son histoire pourrait être sortie du contexte et suffire à elle-même. Scénario.
Sentiment.
Épique. On voit qu'on approche de la fin, et il y a des explosions, ça pète, il y a des grosses bastons mystérieuses, on ne sait pas ce qui se passe dans le ciel, et c'est classe, quoi. Et on a toujours ce côté des sentiments, oui, effectivement.
Mais surtout, c'est que tu as les sentiments, parce que voilà, le personnage, c'est le seul, on va dire, qui a pas eu de... qui, depuis le début, dès qu'on le croisait à Epsilon, était toujours en train de dire « Non, faut pas le faire, faut pas se battre, faut essayer de pas y aller. » Quand il a croisé, comment il s'appelait, le robot lutteur ?
Oui, j'ai oublié son nom, le lutteur, oui.
Voilà, il dit non, il faut pas aller combattre, faut pas y aller. Et pourtant, ben, finalement, quand il faut y aller, il y va.
Bah, d'un autre côté, c'est ça, ou ce que les mômes se fassent. Il a
Et
un peu une menace au-dessus.
ouais, mais du coup, là, tu te dis,
Bon, il y avait
Psylo.
Pluto, il y avait Pluto, il y avait Astro qui était quand même aussi un petit peu pacifiste, entre guillemets.
Ouais. D'ailleurs, enfin, Astro, moi, je me rappelle ce que j'avais dit il y a quelques tomes.
Oui, enfin bon, on s'en doutait. C'est...
C'était le
Voilà.
seul qui était entier.
Mais la façon dont
Ah.
c'est amené est intéressante.
Très intéressante, très
Voilà.
intéressante. Au niveau du dessin, qu'est-ce que tu en as pensé, toi?
Alors, mon mot, c'est réaliste.
Moi, c'est les ombres.
Ouais.
Ben, écoute, bon, alors, c'est vrai que à chaque début de d'épisode, tu te dis, oh, pourquoi est-ce qu'on les a pas en couleur et tout, ce serait trop top.
Ah, ils sont quand même. Bon, les couleurs, je les trouve un petit peu trop délavées parfois, mais.
Oui, du coup, tu vois, il y a certains passages, tu dirais, ça
Ouais.
pourrait claquer, quoi. Et après, tu arrives à des grandes pages où, en noir et blanc, juste avec des traits, tu arrives à avoir une profondeur et avoir un détail avec des ombres qui sont de folie.
Ouais, un travail du tramage, pas que du tramage à la trame, un tramage au trait.
Qui est flambant, quoi.
Ouais, oui, non, c'est vrai que le dessin est génial. Puis moi, voilà, moi, ce qui m'impressionne, c'est toujours ce côté réaliste. D'Urasawa, il arrive à te faire croire que les personnages sont vrais, que tu pourrais les croiser dans la rue. Il n'a pas ce côté stylisé, très ligne claire, justement, qu'on pouvait avoir dans les mangas. Tatsumi, tout à l'heure, avait ce style-là. On reconnaît les personnages, mais on est un peu dans le côté un peu caricatural. Là, c'est vraiment un côté réaliste. Les nez des personnages sont tous vraiment différents. Les attitudes, enfin. Puis il arrive à rendre réaliste des personnages qui, dessinés par Tezuka, étaient très, très, très humoristiques dans le trait.
Bah là, ils le sont plus du tout en fait, hein.
Et c'est bien classe et j'ai hâte d'avoir le tome 8.
Bah la fin.
La fin, c'est bientôt. Ça va être top.
C'est.
Ouais, ça te...
Ben surtout, c'est que du coup, tu te poses la question parce que c'est là où tu te dis, voilà, tu en arrives au tome 7, mais il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal en fait. C'est pas aussi
Oui, il n'y a
binaire
pas de super méchant. Il n'y a pas de
qu'on aurait
super
pu croire au
méchant, il n'y a pas de
début,
super
quoi.
gentil. C'est...
Ben si, dans le premier tome, tu pensais vraiment que voilà, c'était. Plutôt était vraiment le méchant.
Ouais, mais tu te doutes quand tu connais Tezuka et que tu
Tu te
connais
doutes, je suis
Urasawa et que tu
d'accord,
connais
mais.
Urasawa que ça va pas être aussi simple.
Ça va pas être aussi simple, mais c'est vrai que voilà, au fur et à mesure, tu avances, rien n'est plus vraiment clair, quoi. Bon, vivement la fin, en tout cas.
Je propose qu'on reste dans la SF.
Vas-y,
Hein?
tu
On
veux
va changer un
passer.
peu le programme, mais comme ça, ça nous fait des transitions classe. Tu vois, regarde, je viens de dire, je propose qu'on reste dans la SF. Et t'as vu, ça fait une transition, c'est pas mal, non?
Tout ça parce que tout à l'heure, quand t'as proposé le programme, j'étais en train de boire le café, que je m'en foutais complètement,
Voilà, donc on va
et que je
passer
t'avais dit, ouais, vas-y, fais-le dans cet ordre.
sur Iron Man Regenesis. Alors, Iron Man Regenesis de Warren Ellis et Adi Granov est sorti dans la collection Marvel Les Grandes Sagas, mais on le trouve aussi encore en album chez Panini. Si vous arrivez à le trouver, qu'il traîne dans un kiosque, chopez-le parce que c'est pas cher et que je pense que c'est intéressant, même si nos avis sont assez partagés avec Thio.
C'est
Le
différent, ouais.
genre, c'est de la SFSH, de la science-fiction de super-héros. Je pense qu'on est clairement dans le truc. Alors, cette histoire d'Iron Man se situe avant la sortie des films, quand même, c'était il y a quelques années.
Non, c'est entre le film 1 et le film
Non,
2.
c'est sorti avant.
Ah, pour moi, enfin.
C'est sorti avant le premier film.
Oui, mais t'aurais plutôt l'impression que ça se passe entre le 1 et le 2.
Si tu te fies au film,
Si tu te fies au film et si tu te fies à l'histoire.
bon, ça se passe quand même clairement. Il faut savoir que c'est cette BD-là qui a inspiré les films sur le ton à avoir. Donc, qu'est-ce que ça nous raconte? C'est que Tony Stark, il est bien content, il a une super armure, ça lui plaît, sauf que son armure, techniquement, il aimerait pouvoir faire mieux quand même.
Mais il n'y arrive pas.
Voilà, il n'y arrive pas. Et à côté de ça, apparemment, il y a une sorte de grosse sorte de virus nanotechnologique a été déployé, volé et déployé chez un homme qui commence à l'utiliser pour pas faire des choses bien. Donc le méchant à affronter. On est dans une intrigue de base assez basique, avec le méchant qui a le pouvoir, machin chose, et Iron Man qui va faire tout ce qu'il peut pour essayer de lutter contre lui en découvrant les tenants et aboutissants de toute l'histoire. Le scénario est assez classique, mais c'est Warren Ellis qui le raconte.
Comment tu l'as jugé, toi, le scénario? Et c'est quoi ton mot, là?
On va pas être d'accord sur le scénario, donc je pense qu'on va d'abord parler du dessin. On va d'abord parler du dessin, comme ça on se tarte sur la gueule après.
Vas-y,
Hein,
alors,
c'est,
moi, le
t'es
dessin,
d'accord?
je l'ai trouvé splendide.
Moi, je l'ai trouvé technique.
Ouais, une technique splendide, écoute.
Ouais, c'est. Non, mais il y a un côté très froid dans le dessin, qui est vraiment glacial sur certains points, qui colle très très bien à cette BD, qui colle très très bien aux thématiques un peu posées de cette technologie, ce côté, mais très glacial. Ça le devient de moins en moins, c'est-à-dire que plus on avance dans l'histoire, plus le dessin se permet d'avoir un côté un peu plus crade, un peu moins lisse, un peu moins propre. Mais je trouve que le dessin d'Adi Granov, qui est quand même très très beau, très réaliste, a une froideur qui est assez dérangeante, qui m'a assez dérangé sur tout le côté humain. Après, dès que tu as les costumes d'Iron Man, dès que tu as de la technologie, des véhicules ou quoi que ce soit, on y croirait, quoi. C'est limite de la photo, hein. Mais il y a un côté froid, il y a un côté technique qui, pour le coup, colle vachement bien.
Bah, c'est un truc quand même qui est super réaliste quoi.
Oui. Oui,
Et
oui.
même voilà, tu as dans beaucoup d'images quand tu les as en pleine page ou en demi-page, tu as vraiment un côté épique.
D'ailleurs, c'est marrant, c'est là aussi qu'on voit que c'est sorti avant le film, dans le sens où le Tony Stark ne ressemble pas à.
Non, par contre, au niveau
Il a un nez
de
qui n'a rien à voir, par
voilà, au niveau du
exemple.
dialogue, par contre,
Il a le ton.
il a le ton.
Oui, mais. C'est le ton de Warren Ellis, là.
Oui, mais justement, c'est intéressant.
Le scénario, c'est là qu'on starte sur la gueule.
Alors, moi j'ai mis déception.
Moi, j'ai mis fondateur.
Ben voilà. Bah tout est dit, hein. Alors
Voilà.
vas-y, pourquoi fondateur pour toi?
C'est les fondations de l'Iron Man tel qu'il est, maintenant, de l'Iron Man qu'on connaît. On est avant Civil War.
C'est vrai.
On est avant toutes les choses qui ont modifié ce personnage-là, et on est aussi dans une volonté de réécrire l'origine du personnage, chose que DC Comics fait souvent et que chez Marvel est moins flagrant quand ils le font en général. La réécriture des origines pour le remettre dans le contexte de notre époque, et pour faire évoluer le personnage et le faire avancer. On retrouve aussi toutes les marottes de Warren Ellis qui utilisent beaucoup les trucs de nanotechnologie. Il y en a dans Transmettre de la
Aussi,
nanotechnologie,
ouais.
il y en a dans Planétary, il y en a dans Doom 99. La nanotechnologie, il le place partout, il adore ça. Et quelque part, en termes de vision du futur, en termes de transhumanisme, le transhumanisme qui est un. Ouais, alors là, je te rentre dans un truc. Le transhumanisme, c'est une évolution de la technologie qui veut qu'on n'utilise plus des objets pour que l'homme puisse vivre dans un environnement qui ne lui convient pas, mais on va adapter l'homme pour qu'il puisse s'adapter à l'environnement. Ça serait rajouter des branchies à l'homme, toutes ces technologies-là, ce genre de trucs-là. Et les nanotechnologies sont une voie pour s'intéresser au transhumanisme très importante. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la science-fiction et la hard science récente. T'as vu un peu comme je te parle de trucs,
Ça claque,
ça claque.
tu l'avais prévu ton discours en fait.
Non, je l'avais pas prévu, mais je me suis un peu intéressé au transhumanisme grâce à un jeu qui s'appelait Transhuman Space, dont on avait beaucoup parlé. Et donc, il y a tout ce côté-là, et on a ce côté fondateur sur le personnage où ça y est, il règle tous les problèmes sur le fait qu'il était marchand d'armes. C'est réglé,
En quelque sorte, ouais, je suis
il
d'accord.
t'explique,
Ça, je suis
c'est
d'accord.
réglé.
Jusque-là, je valide.
Il te remet les bases au clair. D'ailleurs, tu notes que dans son environnement proche, il n'y a personne.
C'est vrai.
Tous ces sidekicks que tu peux voir même dans les films ou dans les autres BD, il a tout éliminé, il a tout mis au clair, il a vraiment fait un terreau à ras pour pouvoir redémarrer des histoires et laisser carte blanche aux scénaristes qui ont enchaîné derrière et qui ont un terreau fertile pour raconter des histoires. Et voilà. Et c'est aussi ce qui a inspiré le ton du film. La façon dont. Bah, l'armure, hein, ne serait-ce que ça, vu que c'est Adi Granov qui a fait le design des armures du film. Bizarrement, c'est marrant, hein, mais il a une armure qui tient dans une valise, dans un attaché-case, et il y fait référence. Mais c'est pas dans Iron Man 2 qu'ils nous ressortent ça. Tu vois, toutes ces choses-là, toutes ces idées qui ont été reprises derrière. Allez, à toi, vas-y. Ta déception.
Alors, je valide ton idée de que ce soit vraiment la fondation d'une nouvelle Iron Man. Ok. Mais, énorme déception parce que Iron Man n'est plus juste un homme avec une armure.
Ouais, c'est ce changement-là qui te
Ce
perturbe.
changement, bah, c'est non, c'est pas qu'il me perturbe, c'est qu'il me choque, parce que justement, c'était le personnage dans Les Vengeurs qui était humain.
Ouais, mais je pense que pour moi, il a toujours une armure, sauf que la définition de l'armure a changé.
Ouais, mais là, enfin,
C'est plus un exosquelette,
là,
c'est un intrasquelette. C'est ça qu'il a en gros, hein.
non, là, il est devenu mutant.
Non!
Si, ah, si, pour moi, il est mutant dans
C'est un
l'histoire.
humain altéré. Les joueurs de Marvel Super Hero, le jeu il y a des années, se souviendront de ce terme humain altéré.
C'est un mutant. C'est un mutant, et du coup, c'est ce qui est dommage, parce que le personnage qui était typiquement humain, avec, on va dire, bah, justement, tous les travers de l'humanité, parce que du coup, c'est quand même lui qui avait récupéré tous les défauts, hein. Alcoolique, infidèle, enfin bon. Je veux dire, c'est quasiment, enfin,
Non, il
aux
était pas
États-Unis.
infidèle, il était jamais engagé.
Oui, enfin, aux États-Unis, ça fait brûler pour ça. Et là, bah, d'un coup, bon, puis il se rachète une virginité, moi, je veux bien. Mais de là à en faire
Ah ouais,
devenir.
autant il est...
Ça, c'est bon.
Ouais.
Mais de là à le faire devenir mutant, là, je trouve que c'est dommage.
Ouais.
C'est dommage parce que, du coup, pour moi, le personnage, il perd son humanité.
Bah moi non, parce qu'en fait il est toujours dépendant, en fait maintenant il a des machines à l'intérieur de lui, quoi. Et c'est ça qui va le c'est ça qui va aussi pouvoir créer beaucoup de choses d'un point de vue
Et non, parce que
scénaristique.
là, c'est plus des machines qu'il a à l'intérieur de lui. On a changé son ADN.
Ouais, il y a de ça.
Et si... Ah non,
Ouais, c'est ça,
avant,
ouais. Oui, c'est vrai.
je suis d'accord qu'il avait juste des nanotechnologies dans le corps.
Non, il n'en avait pas, c'est que dans Ultimate
Dans les Ultimates, il en
qu'il en
avait,
avait.
donc du coup, tu
Mais dans
disais...
Marvel, il n'en avait pas.
Voilà, mais du coup, tu te dis, ok, il a des nanotechnologies, c'est normal, ça lui permet de mieux gérer l'armure. Là, c'est son ADN qui
Ouais, tu trouves
change.
qu'ils ont franchi le pas de trop, quoi.
Et ouais, parce que c'était... Voilà, enfin, quand tu prends les Vengeurs, qui t'y a dedans?
Oui, tu as tort, Iron Man, Captain America.
Donc, il y en a un qui est génétiquement modifié. Thor, c'est un dieu. Et t'avais un homme. Ça fonctionnait parce que justement, t'avais les trois types.
Maintenant, je peux te sentir les 250 autres personnes qui ont été
Oui,
dans.
on est d'accord, mais on prend les principaux.
Oui.
Et là, ben, non, non. Voilà, non, moi, c'est une grosse déception parce que le faire devenir mutant,
Ok.
c'est
Et
dommage.
si tu fais abstraction de ce point-là?
L'histoire est bonne.
Ouais.
L'histoire est efficace. Je dis, hein, je
Ouais.
valide totalement le fait que ce soit la fondation du nouvel Iron Man. Maintenant, est-ce qu'il aurait fallu aller jusque-là? Maintenant, c'est vrai que quand tu regardes dans les films, pour reprendre les films, c'est pas du tout institué, ça.
Oui. Qu'as-tu pensé des dialogues? J'ai adoré le dialogue avec le reporter au début,
Ouais, bah
qui est...
le ton est excellent.
Le ton est excellent. En fait, ils le font se faire confronter à un reporter qui est un Michael Moore, en gros, hein, qui vient en gros poser quelques questions au gros mania de l'armement. Et forcément, on s'attend pas à ce que ce soit houhou, bon enfant. Et le truc, c'est que lui, il sait qu'il va avoir ce rendez-vous-là et il y va en ayant affûté ses armes avant. Et il a quelques répliques, mais ouch! Assez costaud.
Non, ouais, mais c'est vrai que du coup, ça te pose la question dans l'autre sens, en fait.
Ouais, c'est très très bien écrit, c'est un très bon moment. Et ben, je pense que notre mésentente montre qu'il faudrait peut-être s'y intéresser, hein, si vous n'avez pas encore lu ça, parce que bah, c'est pas une mauvaise BD en soi, ça a des studios, mais ne serait-ce que pour le dessin, la
Non, non,
digraphe.
pour le dessin, je suis d'accord, là, il faut quand même le voir. Là, mais pour le scénario, moi, j'étais un peu déçu de ce petit événement-là qui me gâche un peu tout, quoi.
D'accord. Eh bien, nous allons pouvoir passer à autre chose. Et là, je peux même en bousculant l'ordre, je n'ai aucune transition.
On va passer à du plus léger, mais vraiment du très très light. Les créateurs.
Les gladiateurs.
Alors vous avez donc tous vu ce film de Ridley Scott.
Ouais.
Eh
Alien.
bien, voilà. Et en fait, ça n'a
D'accord,
absolument
rien à voir
rien à voir.
avec Alien.
Voilà, on vous l'a dit, c'est fait.
Donc, gladiateur. Une bande dessinée comique de gags en une planche, scénarisée par Pascal Brossier, dessinée par David Raffet aux éditions Bacabédé. On est dans un format très classique à ce niveau-là. Alors, Raffet s'était fait connaître chez Bacabédé déjà en dessinant la première BD qu'ils ont sortie, qui s'appelait Les Délices d'Aphrodite. Et donc là, on va suivre la vie de personnages qui se sont fait enrôler de force. D'esclaves qui se retrouvent gladiateurs, avec chacun leur particularité. Et pour le genre, nous sommes donc dans de l'humour historique.
Oui.
Pourquoi? Parce que l'auteur s'est amusé régulièrement à insérer des petites explications de mots techniques de l'époque, à vraiment s'intéresser au côté romain, et donc à l'intégrer un petit côté éducatif au milieu. partons sur le dessin. Ton mot.
Mon mot. Il bouge tout seul. Humoristique.
Le micro, hein. Le micro. Tu as dit humoristique. Moi, j'ai mis simple.
Ouais.
Non, je me suis trompé de ligne. Léger.
Je sais qui a fait l'installation du micro aujourd'hui. Le fil n'est même pas entortillé. C'est quoi?
Ah là là.
C'est n'importe quoi.
Donc, léger au niveau du style.
Ok.
Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter sur le côté humoristique? On n'est pas dans les gros nez non plus.
Non.
Non. Bah, franchement, tu m'aides beaucoup là. Bon, alors, il y a un côté léger. Moi, si j'utilisais léger, c'est parce que si le dessin est assez efficace, les têtes des personnages sont sympathiques, je trouve malheureusement qu'il y a un ancrage très, très, très léger. Un trait qui est très fin. Ce qui fait perdre un peu la lisibilité. Alors, je sais pas sur quel format de planche travaille le dessinateur à la base, mais en plus, j'ai l'impression qu'à la repro, le trait est encore plus réduit et parfois, bah, on le perd. Et c'est assez dommage. Ça manque un peu de volume au niveau du dessin par cet ancrage que je trouve trop léger. Après, c'est un dessin qui reste assez efficace, assez comique. Les personnages ont des bonnes tronches qui auraient peut-être mérité d'être un peu plus marqué aussi sur les différentes personnalités.
Bah, surtout, je pense que sur le dessin, il aurait peut-être fallu avoir des gags, enfin des dessins un peu moins, je sais pas comment dire, stéréotypés dans le sens où on a toujours un décor et un, deux ou trois personnages qui sont dedans et t'as peu ou pas de mouvement. Tu vois ce que je veux dire ?
Oui.
C'est-à-dire en fait que peut-être que justement peut-être plus d'alternance dans les vues, dans la profondeur que tu donnes à ton image, j'aurais peut-être été peut-être un peu plus dynamique.
Oui. Oui, c'est vrai. Peu d'usage de champ contre champ. Les personnages souvent à parler de face.
Oh, on trash.
Hein ?
On trash.
Ouais, ouais. Bah, parlons du scénario. Donc, on est dans la BD d'humour en une case. Je ne referai pas mon préambule à chaque fois qu'on parle des BD d'humour en une planche.
À peu près drôle.
Inégal.
Bon, on est d'accord. Hein.
Ouais. La thématique est bonne. Franchement, je pense que les gladiateurs, c'est un très bon sujet de gag, qu'on peut faire quelque chose de très intéressant dessus. Il y a certains gags que je trouve drôles, mais assez mal amenés. C'est-à-dire que la chute tombe à plat. Je comprends la mécanique du gag, je comprends ce qui est drôle dans ce gag-là, mais j'ai l'impression que la chute est mal amené, soit parce qu'on n'a pas eu d'indice de la chute avant, et donc d'un coup elle arrive d'un coup et bah on n'était pas préparé à c'est maintenant qu'il faut rire quoi en gros, soit parce qu'il y a un peu des circonvolutions dans la façon de raconter, il y a beaucoup de cases dans chaque planche en fait, c'est assez verbeux en fin de compte. Et ça va pas vraiment,
texte,
ouais,
texte,
ça ouais. Va pas vraiment droit au but au niveau de l'humour. Voilà.
Mais non, je suis vraiment d'accord avec toi parce que c'est vrai que ça, je pense que c'est quand je te parlais sur le dessin que ça manque de dynamisme, il faudrait peut-être voilà voir en plus court. Ce qu'on disait la dernière fois sur les strips, c'est que voilà faire rire en 3 ou en 4 cases, c'est pas évident quoi. Mais au contraire, faire rire en une page avec 9, 10, 12 cases. Là aussi, ça relève.
Bah là, il y a beaucoup de cases, voilà. Ouais, là, je vois, je suis tombé sur une au hasard. On a, on a 11 cases. C'est beaucoup pour de la BD à gag, j'ai l'impression. Et c'est dommage. C'est-à-dire que, ouais, on sent qu'il a envie de raconter une histoire parce que c'est vrai que ça évolue dans le temps. On voit les personnages. Il se passe quelque chose. Il y a une chronologie dans l'intrigue. Mais il aurait fallu que ce soit peut-être plus en filigrane, en fin de compte, pour se concentrer vraiment sur le gag, sa dynamique, et faire une chute qui tombe bien, voilà.
Mais peut-être qu'il y a eu un mélange de styles, quoi. Il a hésité entre faire que de la BD humour ou faire une BD qui te raconte l'histoire d'un gladiateur.
Ouais, donc bah, je pense que ça peut évoluer, parce que moi je trouve qu'il y a plein de qualités, en fait, et que... Bah, les défauts, les masquent un petit peu, c'est dommage. Voilà. Donc, Les Gladiateurs, chez Bacabédé, par Raffet et Brossier, c'est quoi ce cirque, le tome 1 L'histoire secrète du géant.
Ok, je valide, passe là-dessus.
De Matt Kindst.
Kindst.
Chez Futuropolis, au prix de 24 euros.
Alors c'est cher, mais c'est un beau livre.
Bah, c'est Futuro, hein. Futuro, en général, c'est des beaux bouquins. Il y a un super beau papier, un bon truc cartonné. C'est une superbe qualité d'édition. Souvent, c'est un peu cher. Là, ça fait un peu mal parce que c'est un petit format. Les 24 euros font mal parce que c'est un petit format, quand même. Voilà. Ça aurait été un grand format. On aurait peut-être moins fait la gueule sur le tarif.
Je sais pas, non. Non, parce que vraiment, il est... Non, il est beau.
Il est beau.
Il est beau.
Donc, l'histoire secrète du géant, pour le genre.
Je crois que c'était le nia psychologique.
Oui. Non, ovni psychologique. On avait hésité entre ovni et nia. C'est un ovni psychologique. Alors, que nous raconte l'histoire secrète du géant à toi, Thio ?
Alors, on va donc...
Je te lâche un beau bébé, là.
justement, on va parler donc de la vie d'un beau bébé. Qui a bien poussé depuis tout petit. Hein.
Habile transition.
C'est-à-dire que depuis son plus jeune âge, on va dire, c'est un phénomène parce qu'il a grandi beaucoup trop vite.
Surtout qu'il ne s'est pas arrêté, en fait.
Voilà, et en fait, il ne s'arrêtera jamais de pousser de toute sa vie. Ce qui fait que, bon, au début, à 6 ans, il joue au basket, il fait presque 2 mètres, c'est agréable. Mais,
surtout pour l'équipe des juniors.
voilà. Mais par contre, quand à 30 ans, il fait presque déjà... 25 ou 30 mètres de haut, ça devient un petit peu plus complexe. Et donc, du coup, on va suivre toute sa vie, de son enfance jusqu'à la rencontre de sa femme, sa fille. Et puis.
Et d'un point de vue assez particulier.
Parce que c'est jamais lui qui raconte l'histoire, en quelque sorte.
C'est toujours du point de vue de quelqu'un d'autre. Des femmes qui ont eu de l'importance dans sa vie.
Alors du coup, c'est un peu perturbant au début parce que...
On va revenir sur le côté là, description du scénario, justement.
On a déjà tout dit.
Ouais, ouais, ton mot pour le scénario.
Ah, mon mot pour le scénario, réflexion.
Mon mot pour le scénario, ça y est, j'ai perdu la ligne.
Troisième.
Déroutant. Il y a un scénario déroutant parce que la construction du scénario est un peu bizarre. Tel qu'on vous a raconté le résumé, vous vous dites, ah, c'est l'histoire de ce gars, etc. Mais le fait qu'en fait, à chaque fois, ce sont les personnes qui racontent leur vie à elles et leur rencontre avec le géant. Donc on n'a jamais directement la vie du géant. On a toujours la vie de ces femmes qui ont partagé sa vie. Ou pas. Donc on a sa mère qui commence et chaque fois c'est décrit par un étage. On a premier, deuxième et troisième étage. La première partie donc c'est la mère qui raconte sa vie donc jusqu'à la mort de la mère. Bon c'est pas on gâche pas grand chose en disant ça.
Tout.
Voilà non et puis même c'est pas le oh non sa mère va mourir c'est trop la surprise. T'es d'accord c'est pas l'intérêt de l'histoire.
Non c'est pas l'intérêt de l'histoire.
Et donc, on va avoir ce point de vue de cette mère, mais c'est écrit de façon très, très diluée.
Même, j'irais très intimiste, parce que c'est presque... Je pense que c'est les réflexions que tu te fais... c'est les réflexions que tout le monde se fait sur sa propre vie.
C'est des bribes de souvenirs.
Oui, mais surtout, c'est les réflexions que tu te fais, mais que tu ne te fais que dans ta tête. C'est-à-dire que tu ne diras jamais aux autres.
Oui.
Parce que c'est pas politiquement correct, parce que c'est pas la bonne idée au bon moment, parce que tu sais que tu peux pas parler de ça.
Ça ressort un peu comme un testament d'ailleurs.
Eh ben oui, on arrive à un truc dans ce style et c'est.
Et c'est déroutant parce qu'on s'attend pas du tout à ça. Qu'on a lu le résumé du bouquin déjà.
Non, parce qu'en fait tu t'attends pas à ça quand tu l'achètes.
Et t'es totalement surpris. Et arrivé à la fin de cette première partie, j'ai fait oh là là, mais dans quoi je me suis lancé. Heureusement, la deuxième partie part sur un point de vue. Beaucoup plus classique dans la narration. Donc là, c'est la copine du géant. À chaque fois, j'oublie son nom parce qu'on l'appelle le géant à chaque fois. Craig Presgang.
Ouais.
C'est la copine du géant qui raconte son histoire. Et on a son point de vue à elle. Et là, on arrive dans un récit beaucoup plus classique et on arrive à raccrocher les wagons avec ce qui a été raconté avant. Parce qu'on a des scènes qui sont racontées sous les deux points de vue, celui de la mère et celui du fils. Et on arrive à raccrocher les wagons. Et on se rend compte surtout que, en fait, ce qu'on a lu avant, c'était surtout le portrait de la mère.
Plus que celui de son fils.
Voilà, c'était comme si le fils était un miroir, en fait, dans lequel elle se reflétait pour nous raconter qui elle est. Voilà.
Et ben, je crois qu'on peut arrêter là.
Voilà. Ouais,
tu coupes l'émission, on stop ici. Ouais.
Donc, même chose avec la fille. On va voir qu'il va devenir agent secret.
Il va travailler pour la CIA.
Voilà. Parce qu'en gros, ils partent du principe que le meilleur agent secret, c'est celui qu'on voit le plus. Parfois. Sauf qu'il va avoir des problèmes, parce qu'il n'arrête pas de grandir. Ça, il coûte cher, en fait, hein, à habiller.
À nourrir.
Il y a tout le côté logistique qui est mis en avant et qui est très intéressant. Et qui fait bizarre. On a l'impression que c'est un objet, que c'est un. Que Craig Pressgang est un.
Il n'est pas un être humain.
Ouais, c'est très perturbant, alors qu'il a...
C'est un phénomène de foire, et en fait, la seule personne avec laquelle il a de l'humanité, on va dire, où il redevient humain, c'est les discussions qu'il a avec sa femme, en fait. C'est ouais. Pas gentil, ce que tu fais. Hein.
Je lui remets le micro droit. Il y avait le micro qui pendait.
Et donc...
Je t'ai perturbé, là. Oui, c'est les discussions qu'il a avec sa femme.
Ça me perturbe toujours quand tu roules, en fait.
Ouais. C'est les discussions avec sa femme.
C'est ça. C'est le seul moment où on a vraiment une preuve d'humanité et où on s'attarde du coup aux réflexions que le géant a par rapport à ce qui l'entoure. Quoi.
Ouais.
Mais plus on va avancer dans l'histoire et plus il va avoir de difficultés à communiquer avec l'extérieur.
Et enfin, la troisième partie sur laquelle on va pas s'attarder parce qu'elle est pour le coup assez surprenante.
Et elle, là, faut pas spoiler parce que sinon on
voilà. La troisième partie va nous raconter le final de cette biographie, hein, on va dire, qui est du point de vue d'une autre femme importante pour le géant. Et là, c'est beau, quoi. C'est là, d'un coup, on se dit ah ça y est, je comprenais pas à la fin de la première partie pourquoi je le lisais. J'arrive à la fin de la troisième, maintenant je sais. Voilà. C'est pour ça, donc oui, tu comprends maintenant mon mot déroutant, c'est tu sais pas où tu vas jusqu'à ce que tu arrives à la fin.
Oui, mais je crois même qu'à la fin, moi je suis arrivé à l'histoire en me disant, mais qu'est-ce que j'ai vraiment lu, quoi.
Ouais.
Est-ce que c'est l'histoire du géant? Est-ce que c'est l'histoire de ces femmes? Est-ce que c'est pas finalement, d'un point de vue symbolique, carrément autre chose? Et que l'histoire est qu'un prétexte?
Voilà, je crois que c'est les trois.
C'est vraiment c'est une réflexion.
Le géant est un bout des trois femmes dont on parle. Les femmes ont en elles un bout du géant. Ils se définissent tous les uns par rapport aux autres. Je crois que tu as eu une image horrible en toi, Thio. Au-delà de ton esprit et cesse de rire.
Non, c'est ma gorge. C'est ça.
Donc, non, je crois que c'est vraiment c'est une sorte de puzzle où, en fait, tout s'assemble très, très bien. C'est quand la dernière pièce est posée, en fait, que...
Bah, que tout prend son sens.
Voilà. Et ça donne envie de le relire derrière, quoi. Hein ? Bon, bouquin ? On n'a pas parlé du dessin,
ouais. J'allais te dire, voilà, on n'a pas donné tel dessin. Qu'est-ce que t'as dit comme mot, toi ?
Alors, sur le mot pour le dessin, j'ai mis simple.
Moi, j'ai mis journal.
Journal.
Ça m'a fait penser, tu sais, aux petites histoires que t'as dans les journaux, quoi.
Et surtout qu'il y a des coupures de presse au milieu. Voilà,
tu lis le journal intime de quelqu'un, quoi, comme si t'avais collé un petit peu tous les morceaux dedans.
Ouais, il y a un côté simple, un peu aquarellisé. En plus, il y a une texture sur le papier. Enfin,
le papier est classe. Hein.
Ouais, il y a une texture sur le papier. Alors, c'est une texture. Hein. C'est une texture imprimée. Hein.
Ça fait classe, hein, parce que on dirait vraiment que c'est du papier un peu jauni, quoi.
Ouais, mais j'ai vérifié, c'est que quand tu as les mêmes taches au même endroit sur chaque page, c'est que c'est une texture imprimée.
Bah ça le fait,
ouais,
quoi.
Ça le fait bien. Enfin, c'est très joli, un papier, ouais, ce côté jauni, ce côté un peu ancien, ce côté, ouais, le carnet que tu aurais pu trouver, témoignage. Voilà, c'est vrai que le dessin, je ne mettrais pas que c'est la grande force quand même. Les visages sont parfois un peu difformes. Le côté un peu. Alors, je sais pas si c'est une volonté de montrer le côté changement de perspective aussi. Tu vois pas la même chose avec des yeux de géant quand tes globes oculaires font un ou deux mètres.
Mais du coup, ce qui m'a tu vois, un peu dérouté, je reviens un peu dessus, c'est que des fois, tu cherches le texte.
Oui.
Moi, il y a des cases, je me suis retrouvé. Alors, tu es en train de lire une phrase, et en fait, tu vois bien que ça continue, mais tu cherches où est le texte dans l'image.
Ouais.
Parce que bah, des fois, c'est pas. Tu sais, ton œil, il suit l'image, mais t'as plus vraiment le.
Le texte est très intégré, pas forcément dans des cases, etc. Enfin, on recommande.
Ouais. Un bouquin un peu cher,
mais qui a un vrai plaisir à lire. Ouais. Et puis, comme on peut le relire plusieurs fois, je pense, justement. qui vaut le coup.
Ça vaut le prix. Voilà. Puis bon, c'est un récit complet en un seul tome, déjà c'est assez rare.
Oui, oui, oui. Bon, chez Futuro, il y en a pas mal.
Oh, ils font aussi des trucs à suivre quand même.
Courtney Cramerin, hors série, le deuxième hors série, qui s'appelle La Ligue des Gentlemen Ordinaires. Chez Aquileos par Ted Neffe. On avait déjà parlé de Courtney Cramerin, on a déjà parlé, je pense, du précédent hors-série. Je ne sais pas si on a parlé de la série Courtney Cramerin en entier, en fait.
Je crois pas.
Ouais. Mais on a déjà parlé du précédent hors-série. D'ailleurs, il y a longtemps maintenant. Ça devait être au tout début. Et donc, ça nous raconte... c'est dans un monde un peu à la Harry Potter, on va dire, hein, avec des familles de sorciers, etc. Un peu plus sombre, j'aurais tendance à dire. Et on va suivre la vie... d'un sorcier qui s'appelle Aloysius, à chaque fois je trouve plus son nom, ouais, c'est Aloysius, je sais même pas comment on prononce. Voilà, qui était le je sais plus si c'est le grand-père ou l'oncle de l'héroïne de Courtney Cramerin.
C'est le grand-père, je crois.
Ouais, voilà. Et là on va suivre ses aventures dans les années
50.
Ouais, ça doit être ça. Un côté très pulp dans le trait.
Très très pulp, ouais.
Et on va surtout suivre sa vie de lutte contre des méchants sorciers qui veulent faire du mal aux gens. En gros, hein,
en gros.
On résume grossièrement. pour le genre, nous avons décidé que c'était de l'aventure horreur, parce qu'il y a un côté horrifique, il y a un côté magie qui est très prenant. Et donc... Aloysius essaye. Je suis dans le flou sur le scénario du truc. Je sais pas pourquoi. J'ai dû le lire il y a trop longtemps.
Aloysius en fait se retrouve est le petit ami d'une jeune fille.
Oui, petit ami.
Alors
plus elle, ou moins volontaire.
Plus ou moins. Non, si. Lui, il est volontaire.
Oui.
Voilà. Sauf qu'ils travaillent donc tous les deux pour une sorte de société secrète qui débusque les sorciers. Et les tue.
Voilà. Sauf que Aloysius, c'est lui-même un sorcier.
Eh oui. Mais ça, la fille le sait.
Oui. Mais elle peut pas le dire.
Non.
Parce qu'il lui a lancé un sort.
Parce qu'il lui a lancé un sort. Il est trop fort.
Voilà. Et on va voir qu'en fait, dans cette société, il y a des choses étranges qui se passent. Et on se retrouve un peu dans une enquête interne au sein de la société pour essayer de résoudre les problèmes. Le scénario. Qu'as-tu dit ?
Pulp.
Fun. On est dans de l'horreur, mais dans de l'horreur légère. Enfin, l'objectif n'est pas vraiment de faire peur. Il y a ce cadre un peu gothique, on va dire, voilà, plus que horrifique, en fin de compte.
Je vous dirais que Courtney Cramerin fait un peu plus horreur que ça.
Oui, voilà.
Les HS sont quand même un peu différents, je trouve.
Plus léger, un peu plus fun. Et donc, on passe un bon moment. Il y a quelques rebondissements, des retournements de situation. On apprend des trucs en cours de route qui sont bien.
Le personnage changé en noix.
Oui, c'est pas. Ouais, il y a des trucs drôles.
Qui a passé les 6 derniers mois à couver, quoi. C'est...
Voilà. C'est clairement pas une BD qui a un scénario exceptionnel. On n'est plus. Mais ça fait bien son taf. C'est divertissant. On passe un bon moment.
Et puis surtout, ça donne un petit peu d'explication sur l'Aloysius quand on lit Courtney. Courtney Cramerin,
la BD derrière, que j'aimerais bien qu'il y ait une suite, un de ces quatre.
Ce serait bien.
Voilà.
Il faudrait qu'il arrête de faire des
hors-séries et d'autres choses.
Voilà.
Parce qu'il fait d'autres trucs à côté.
Et qu'il continue la série principale.
On verra. Le dessin.
Dynamique.
Contrasté. Il y a un travail du noir et blanc, des ombres, de la gestion des ombres, du. Qui est superbe, quoi. Il s'est très bien raconté. Quand tu dis dynamique, effectivement.
Surtout, c'est que je trouve qu'il a gagné en dynamisme. Par rapport au début dans la série, je crois que c'était quand même beaucoup plus statique.
Ouais.
Et là, maintenant, tu commences vraiment à voir dans l'image, tu commences à voir dans l'histoire une dynamique qui se crée, qui fait que voilà, tu as un rythme qui change en fonction des moments, ce qui était beaucoup plus linéaire avant.
Ouais, puis un réalisme aussi dans le trait, les visages sont beaucoup moins difformes, c'est beaucoup plus net, les femmes sont très jolies.
Il y a du pulp. Hein.
Ouais. Voilà. Voilà, un bon divertissement, on va dire sans plus, quoi. C'était sympa, me suis bien fait plaisir. Dans la continuité de Courtney Cramerin.
Voilà, si on lit Courtney Cramerin, je pense que c'est un bon achat. Après, si on ne lit pas Courtney Cramerin, je pense qu'il vaut mieux. vaut mieux passer son chemin parce que l'histoire en elle-même, si tu le lis toute seule.
Bah, faut lire le HS précédent aussi pour avoir un peu plus le contexte. Ça aide quand même. Voilà. Les HS peuvent se lire les deux séparément, mais les deux en même temps. J'ai pas été clair. C'est peut-être qu'il est temps de passer à l'intégrale.
Là, tu t'es senti seul d'un coup, non ?
Ouais, ouais, je me suis senti seul. J'ai senti qu'il y avait un soutien terrible de ta part.
Mais comme tu étais seul, tu veux me faire la suivante ?
Oh, je n'ai pas vu ta transition de merde. Elle était belle, elle était belle.
Elle était capillotractée.
Tu vois, voilà, nous allons parler donc de Souls. C'est un Souls. De Gazzotti et Velman. Bon, Gazzotti, rapidement, dessinateur de Soda.
Ah bon ?
Ouais, qui est une très jolie série qu'il ne dessinera sans doute plus, mais bon.
C'est dommage, parce qu'elle est bonne. Hein.
Ouais, ouais. Velman, scénariste de tellement de choses.
Bah surtout, en fait, je crois qu'il a quasiment son fauteuil ici, non ?
Ouais, ouais, je veux dire.
Avec Garcenis et Warren Ellis, ils ont leur petit fauteuil.
Ouais, ils ont leur petit fauteuil, ils peuvent venir quand ils veulent. Garcenis et Warren Ellis, j'ai peur que la discussion risque d'être difficile, mais Fabien Velman, ça devrait aller. Même s'il a un accent, ça reste un accent français, on devrait s'en sortir. Ouais, Warren Ellis, il doit avoir un accent anglais du néant.
C'est les plus durs, les accents anglais, ça c'est terrible.
Bref, Fabien Velman, donc on a parlé de plein de choses de lui, on va pas y revenir. Qui sort chez Dupuis, cette série jeunesse.
Yep.
Série jeunesse qui a un petit côté quand même tout public. Le genre, c'est du mystère et de l'aventure. Du jour au lendemain, des enfants se réveillent pour se rendre compte que tous les adultes ont disparu et qu'ils sont seuls dans la ville. Ils sont seuls dans la ville, une ville qui en plus est envahie par des animaux qui se sont apparemment échappés d'un cirque.
Oui, parce que la ville, c'est pas non plus la ville gigantesque. Hein.
Oui, ça semble être une assez grande ville, mais pas non plus le petit patelin paumé. On n'est pas à Paris, quoi.
C'est pas Paris. Voilà,
voilà, la campagne n'est pas trop loin. Et ils se retrouvent seuls, ils se connaissent pas. Ils ont chacun leur passif, ils sont plus ou moins jeunes. Et puis, bah, on va suivre un peu comment est-ce qu'ils se démerdent pour survivre. On est vraiment dans un côté survival avec ces pauvres mômes bloqués.
Survival horror.
Ouais, survival horror.
C'est Resident Evil, en fait. Hein.
Ouais, c'est Resident Evil pour les jeunes. Et donc, premier tome...
D'ailleurs, tu vois, je dirais qu'entre le tome 1 et le tome 5, tu vois la différence. Au début, il a le gourdin. Au tome 5, il a un couteau.
Oui, oui, oui. Et au début, le sang, il est par terre. Bon, à la fin, 2, il est sur le couteau.
Dans le tome 2, ils avaient un gun. Hein.
Ouais, c'est vrai. Mais il n'avait pas tiré encore. Le chien est encore armé. Bref, on est dans du jeunesse. Chaque tome est relativement indépendant. C'est-à-dire qu'il va vraiment nous raconter une histoire complète qui tient la route. Et chaque tome est surtout une grosse boîte à mystères.
Bah parce qu'en fait, au fur et à mesure, les enfants essaient de trouver pourquoi est-ce que les parents ont disparu.
Voilà, pourquoi est-ce qu'ils sont salés.
Et surtout, c'est qu'ils se rappellent de rien.
Puis ils vont rencontrer d'autres personnes aussi qui vont influencer.
Il y a le maître des couteaux.
Voilà, qui est quelqu'un qui est habillé de plein de couteaux et qui apparemment essaye de les menacer.
Ou se défend.
On ne sait pas trop. Ils vont rencontrer un autre groupe de jeunes.
Le parc d'attractions.
Voilà, qui sont menés par un autre jeune plutôt vindicatif, et puis plutôt surtout qui veut bien mener son Reich.
Ouais, ça faisait un peu fascisant, mais dès le début, avant même qu'on voyait les bouquins, ça fait quand même très fascisant.
Bah, la coupe de cheveux était assez recherchée. Bref, et on va suivre tous ces jeunes, et donc il y a tout un mystère sur... On ne sait pas. Sauf au tome 5, où on sait. Et on sait et on fait. Ah ouais, et ce qui est bien, c'est qu'on sait, mais que ça fait nous poser encore plus de questions.
On sait, mais on ne sait pas.
Sur le scénario, on ne va pas rentrer dans les détails de chaque tome, parce qu'à chaque fois, ça va être surtout... chaque tome va nous expliquer ce qui se passe quand il rencontre de nouvelles personnes. Comment est-ce qu'ils s'intègrent au groupe ?
Ça va aussi expliquer un petit peu le passé de chacun des enfants.
Voilà.
Qui a une importance.
Oui, chaque enfant sur chaque couverture, en fait.
Ouais.
Et le tome 5, c'est le tome qui va un peu nous faire la révélation sur ce qui s'est passé. Et on va voir tous ces 5 personnages, etc. C'est une série qui peut être assez dure pour de la jeunesse, parce que le scénariste ne ménage pas ses personnages principaux. Il ne les ménage pas. Et quand on arrive à la fin du tome 4, on fait... Oh putain, non, c'est pas vrai, c'est pas possible.
C'est ça. C'est ça. Et après,
Il n'a pas osé.
ben oui, c'est ça. Là, moi, franchement, j'étais quand même très surpris dans le tome 4.
Ouais.
Parce que tu te dis, c'est pas possible, quoi.
Il peut pas faire ça dans
Il
un
peut
truc
pas faire
jeunesse.
ça, voilà. Non, non, mais. Non, mais puis même, il peut
Et en
pas
fait,
faire ça
non,
vis-à-vis
il peut le
d'un
faire.
chien.
Ouais, mais en fait, il peut le faire. C'est juste qu'il prend pas les jeunes pour des cons et qu'il est malin comme scénariste.
Non.
Non, mais j'ai trouvé ça bien foutu. Après, j'ai trouvé qu'il y avait quelques faiblesses sur le tome 2 et 3. Qu'il y avait un côté un peu plus remplissage. L'intrigue avançait peu en fin de compte. Les éléments auraient pu être recontractés. Tu vois, un peu plus contractés.
Ouais, mais je pense qu'il fallait justement, une fois qu'on va dire, tu as passé le coup de les parents ont disparu, tu vas créer justement une sorte de routine. Et puis quand dans ta routine, tu as réussi à te recréer assez de choses du quotidien qui vont bien, ben là tu vas pouvoir commencer à te poser les questions sur, ok, bon maintenant voilà, on a bouffé, on a un toit pour dormir, qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, et puis il y a une autre structure aussi qui est intéressante. Si tu regardes bien chaque élément, il y a un élément de mystère qui est présenté dans chaque tome et qui est réutilisé. C'est-à-dire que dans le tome 5, que ce soit le clan du requin, le maître des couteaux et les cairns rouges, qui sont les titres des tomes 2, 3, 4, ils sont impliqués dans le tome 5.
C'est peut-être pour ça que c'est la fin du premier cycle.
Fin du premier cycle qui amène une suite. Et là. Ben, on arrive sur une suite et on se dit.
Ouais, mais c'est
T'as vu comme
intéressant.
je fais bien le générique de
Ouais,
Lost?
mais du coup, moi, j'ai un peu peur. J'ai un peu
Ouais.
peur parce que ça m'a fait quand même étrangement penser à un manga dont on a déjà parlé en intégrale. C'était Spiral.
Spirale, oui, qui était glauque quand même. Spirale, quoi.
Qui était
Bah,
glauque.
oui, Spirale était beaucoup
Non,
moins tout
non, il
public.
était quand même,
Oui,
il était glauque, hein, il était
ouais.
glauque. Mais du coup, j'ai un peu peur que on se rapproche un peu trop de ça, en fait.
Et que la fin parte en vrille comme dans Spirale.
Peut-être, je sais pas. On verra, mais.
Ah, j'aurais tendance à dire qu'il va poser les choses plus calmement. Alors le tome 6 vient de sortir, je crois. Il va falloir que je me le procure et puis on en parlera prochainement pour faire le point dessus. Alors si, il y a un truc qui est un peu énervant quand même sur le scénario, enfin, moi qui m'a un peu énervé, c'est que les personnages sont bien caractérisés, c'est vraiment des mômes. Et des fois, t'as vraiment envie de les baffer, tellement c'est des petits cons qui sont livrés à eux-mêmes. Et quand tu lis ça en tant qu'adulte, t'as du mal à. Enfin, tu peux t'attacher au personnage, mais tu peux à absolument aucun moment t'identifier à eux.
Non, mais ça, c'est juste parce que t'as reconnu ton petit frère dedans, c'est tout.
À part Doji, à la rigueur, qui est le plus vieux aussi, hein, donc celui sur lequel on peut.
Non, je crois pas que ce soit le plus. Enfin.
Serait la fille la plus vieille?
Il me semble,
Comment
je
elle
crois pas que
s'appelle
ce soit
déjà?
le
J'ai
plus
oublié.
vieux, Doji. Enfin, bon. Dans tous les cas, je dirais, voilà, ils ont chacun vécu une vie un peu différente dans leur jeunesse, et c'est.
Un truc qui est pas mal réussi aussi, c'est que géographiquement, c'est pas situé. Alors on devine que ça se passe en France, mais c'est à aucun moment, ça n'a aucune importance dans le récit en fin de compte. C'est pas situé, il fait aucun effort pour nous dire nous sommes en France, il assiste à aucun moment sur le fait nous sommes en France. Ça pourrait être une histoire qui se passe aux États-Unis. D'ailleurs, je crois que les voitures de flics font plus américaines que. Mais ça, c'est Gazzotti à force de dessiner du soda, je pense.
Il est obligé maintenant.
Il s'est pas dessiné d'autres voitures de flics. Surtout qu'il avait fait le dessin quand ils avaient changé de voiture, la police new-yorkaise. Il avait dû apprendre à redessiner les nouvelles voitures, tu vois. Bref, le dessin, justement.
Nickel. Il se prête pleinement au récit et il colle parfaitement, je dirais, à l'histoire, quoi.
Moi j'ai dit classique, parce que c'est vrai qu'on est quand même sur un style graphique qui est très classique, qui a une certaine efficacité. La narration est efficace, c'est-à-dire qu'il sait raconter des histoires, il sait mettre en scène d'une façon qui va fonctionner. Mais après, dans le style graphique, on est dans quelque chose d'assez. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai tellement l'habitude de voir le style de Gazzotti, je suis peut-être un peu trop habitué, ça me surprend plus, quoi. Mais voilà, on est dans quelque chose d'assez classique. Ce qui surprend, c'est que c'est un style qui a choisi d'être très très clair. Je sais que Gazzotti peut être beaucoup plus sombre dans son dessin et dans son ancrage. Et j'ai l'impression que parce que c'est une série jeunesse, il a voulu garder un trait très clair et des couleurs qui, en fin de compte, sont assez vives.
Ouais, ça se prête parfaitement, je trouve, à l'histoire, quoi. Y a pas, c'est, enfin, dans le sens nickel, c'est pas, le dessin n'est pas exceptionnel, mais il remplit pleinement son office, quoi. Il y a pas de faute, quoi, dans la dynamique, dans le choix des couleurs, dans voilà, non, c'est juste.
En tout cas, j'ai une envie de lire la suite, de savoir comment ça va se passer. Ce que j'aimerais, c'est de voir si Velman va faire quelque chose de très très rare dans la bande dessinée, c'est de faire vieillir ses personnages. J'aimerais beaucoup qu'un tome 2 se passe quelques temps après, où on les ait vus qui aient vieilli psychologiquement. Parce que c'est vrai que... Enfin, que un peu le lectorat puisse grandir avec ces personnages-là, quoi. Je sais pas comment ça va se passer, je sais pas comment il va le gérer, je sais pas comment il va gérer ça par rapport à son univers, à ses particularités, par rapport à sa mythologie, qui sont assez particulières en fin de compte, et qu'on commence à le découvrir. Donc je suis très 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 curieux de voir comment ça va évoluer, et comment sera le prochain cycle. Alors il y a eu un intégral de Seul, qui est malheureusement, je crois, introuvable maintenant.
En même temps, ça va être un sacré intégral, parce que ça fait quand même 5 BD.
Oh, il y en a eu des pires.
Oui, non, ça va être quand même volumineux, quoi, c'est ce que je veux dire.
Enfin, oui, tu sais, t'enlèves les couvertures, c'est du cartonné. Hein.
Je suis bien d'accord, mais
tu
bon.
Tu prends plus que de couvertures, c'est déjà moins volumineux, hop, ça fait. Ouais, oh, voilà, un intégral de 5 volumes. Ça fait 3 tomes.
En gros. Ça fait déjà joli, quand même.
Oui, c'est un bel intégral. Mais bon, on peut les trouver en individuel, ça coûte dans les 10 euros, je crois. Et c'est sympathique. Quelque chose à rajouter ?
T'avais oublié un S à Seul.
Ouais, je sais. Sur la fiche. Tu pouvais me corriger, t'as accès. Online.
Ah, ça, c'était dans ma face. Alors donc là, tu vas nous parler donc de l'online, donc de Traboul.
Mais oui, l'excellent Traboul, n'est-ce pas?
Exactement. Alors surtout en plus que tu m'as dit tout à l'heure que tu étais certain que tu allais nous dire plein de bêtises.
Oui, oui, plein de bêtises.
Donc surtout, n'hésitez pas, dès qu'il fait une erreur, mettez un commentaire, cassez-le un peu, ça, comme ça, du coup, ouais. On parlera moins.
Voilà, surtout qu'en plus, j'ai l'impression que, tu vois, maintenant, on a Vandril qui commence à écouter les émissions régulièrement, et lui, il va bien pouvoir me casser là-dessus. Parce que Traboul, en fait, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a un festival qui s'appelle Lyon BD.
Vandril, c'est l'émission où tu m'as squeezé, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Ah oui, celle où ouais. Tu m'as coupé au montage.
Donc il y a un festival qui s'appelle Lyon BD. Oui, mais sinon l'émission était beaucoup trop longue. T'imagines 2h40 sans toi si t'avais été là, on ne serait pas sorti, on serait monté à 2h50 comme on aurait fait. Donc
le mot commence par un S et finit par un E, tu trouves?
Donc Lyon BD, donc qui demande sur leur blog à un auteur de l'animer avant que le festival ne commence. Et l'an dernier, c'était Vendry. Donc, il connaît un peu le principe.
Et, oh, il fait du copinage.
Et il a refilé un peu le bébé à un autre illustrateur qui s'appelle Pochep. Pochep, qui a aussi son blog, qui a un style très particulier et qui est très très sympathique. Et que nous raconte ça? Alors, déjà, ils se sont amusés à demander à certains des invités du festival de raconter un souvenir sur leur BD préférée d'enfance imaginaire. Et donc, ils ont tous inventé une bande dessinée, sortie du néant, imaginaire, en faisant la couverture, quelques dessins, et en disant pourquoi est-ce qu'ils adoraient ça. Alors, on se trouve avec des sortes de melting pot entre plusieurs BD assez improbables et assez drôles, avec plein d'auteurs talentueux. Et à côté de ça, une fois par semaine, Pochep nous sort un bout de l'histoire de Traboul, qui nous raconte une histoire assez étrange et improbable d'une sorte de politicien qui veut faire ses élections, mais qui a des problèmes avec sa femme, parce que sa femme est censée être un objet qui tient, mais sa femme, elle a pas envie, elle veut se casser, sauf que là, le gars qui finance son élection lui en veut. Et en parallèle, on a une sorte de vieux en fauteuil roulant, qui se balade avec un cadre, qui s'appelle la Traboul. Parce que les traboules, c'est les passages...
C'est les petits passages dans le vieux Lyon, non?
Ouais, qui permettent de passer de maison en maison en passant dans les maisons. Bah là, c'est un cadre qui l'appelle la Traboul et qui, en fait, permet apparemment d'avoir des pouvoirs et de voir ses fantasmes les plus fous. Un truc dans le genre. Et d'ailleurs, il y a un jeune dedans qui, à un moment, arrive à se focaliser dessus et qui commence à voir plein de jeunes hommes nus... qui se jette sur lui, le sexe à l'avant, et il est trop heureux à la fin. Il demande à son collègue, tu as vu? Oui, oui, c'était horrible. Non, c'était trop beau. Donc voilà, tu vois le genre de truc. Ça part en vrille tout du long, c'est débile. C'est le dessin de Pochep. Je ne saurais pas le définir, il est super surprenant. Il y a une façon de raconter en plus qui va avec. Il y a un petit côté, j'aurais tendance à dire, les dessins qu'on pouvait avoir un peu dans l'écho des savanes, ce côté un peu trash, mais avec une ligne un peu claire, enfin, c'est totalement définissable. Je vous invite grandement à aller voir Traboul, moi ça me fait beaucoup rire, c'est tous les lundis, j'ai pas encore lu le dernier d'ailleurs, je suis un peu à la bourre. Et puis en plus, bah, ça sortira aux éditions Vroom, je crois, et là c'est du copinage éhonté, c'est bon, hein, on l'a fait. Voilà.
On l'a fait.
Voilà. J'ai honte. Mais non, en fait, non, j'ai pas honte. Vu que ça me plaît, je vois pas pourquoi j'aurais honte, n'est-ce pas?
Je t'avoue que ça fait 5 minutes que je t'écoute pas en fait.
Ouais, c'est ce que je me disais. C'est peut-être pour ça qu'on va conclure.
C'est
Hein?
ça. Alors surtout, n'hésitez pas, hein, donc vous ne laissez pas de messages sur Facebook. Non
bah
pas
là, il serait
sur
temps quand même.
Twitter.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de messages sur
Donc
Facebook.
pas non
J'aimerais
plus
bien
sur
voir. Non, mais
iTunes.
j'aimerais bien. Franchement, il est temps de vous rappeler que vous pouvez nous laisser des commentaires sur Facebook. Ça nous fait super plaisir et tout. On est content. On fait ouh, on saute de joie. On fait des danses et tout. On ne les filmera pas. Hein? C'est toujours une grande joie et un grand
Non.
bonheur.
En l'occurrence, donc je profite aussi. Nous devons toujours faire un ex-libris pour un certain auditeur qui avait gagné quelque
Oui,
chose,
oui,
mais j'attends toujours que OneIP fasse la feuille.
oui. Oui.
Donc je suis désolé, je n'y suis pour rien. De
On
toute
va le
façon, c'est
faire,
un
on va
petit
le faire,
peu
on va le
comme
faire,
dans
on va le
quasiment
faire.
tout le podcast, je n'y suis pour rien.
C'est
Donc voilà.
une belle façon de se dédouaner. Donc, bah, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur le blog, à nous dire quelles conneries immenses nous avons pu dire dans cette émission, car nous en disons beaucoup, car nos préparations sont très... Au revoir, à bientôt et à la semaine prochaine pour une superbe interview de Arnaud Torisson des éditions Bac à BD et à dans 15 jours pour une émission un peu plus courte parce qu'on est aussi à la bourre de plein de choses. À bientôt, ciao!
Ciao!